Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée, compile des reportages du mois de mai.
À Rennes, un village pas comme les autres a pris forme le temps d'un week-end. À l'occasion de la fête des possibles, Alternativa Rennes a réuni une centaine d'associations engagées sur le mail François Mitterrand, un espace ouvert, vivant, pensé comme un marché d'idées et d'initiatives. Reportage de Ulrich au cœur du village des possibles.
Ce samedi, nous sommes sur le village des possibles de Rennes. Le temps est merveilleux sous un chaud soleil qui n'a pas émoussé les ardeurs sur le village. Les stands se font face, alignés comme dans un marché à ciel ouvert. Entre les allées, le public circule librement, s'arrête, échange et derrière chaque stand, des bénévoles engagés, prêts à expliquer, convaincre et sensibiliser. Marité est de l'association Bretagne Équitable.
On fait des interventions dans les écoles. Auprès dans les collèges, les lycées, auprès des étudiants aussi, et aussi tout public comme aujourd'hui, pour expliquer les critères du commerce équitable et le pourquoi du commerce équitable par rapport au commerce conventionnel.
L'ambiance est à la fois simple et vivante. Ici, une association présente des alternatives écologiques du quotidien. Là, c'est une autre qui met en avant des actions de solidarité locale. Plus loin, des initiatives citoyennes invitent à repenser les modes de consommation et d'organisation sociale. Zélia est de Rennes Métropole.
Alors aujourd'hui, on présente surtout la programmation du Printemps Citoyen, qui est un programme événementiel qui se déroule sur un mois et demi sur toute la métropole rennaise. Et il y a plus d'une centaine d'actions gratuites, ouvertes à tous, qui sont proposées par des associations, des groupes d'habitants, des maisons de jeunes, donc plein d'acteurs associatifs aussi, et de la société civile autour de la transition écologique et de la citoyenneté. Donc si vous allez sur lafabriquecitoyenne.fr, vous allez trouver toute la programmation du Printemps Citoyen et on vous encourage à regarder et à venir voir ce qui s'y passe.
L'Observatoire des médias Acrimed est aussi sur ce village associatif. Joseph, qui en est un membre, explique la présence de cet organisme connu pour ses critiques des médias.
On profite du festival pour faire connaître l'association, ou mieux connaître pour les gens qui connaissent un petit peu. Beaucoup de gens ont déjà lu des articles, ont déjà vu soit le film Les Nouveaux Chiens de Garde, soit connaissent la carte des médias qui possèdent quoi. Mais ça permet d'avoir un échange et de parler d'une soirée qu'on va faire au mois de juin. On invite les gens à cette soirée-là, on les incite à s'abonner à notre revue, à s'intéresser à la question des médias en général, quoi.
Pour Alternativa Rennes, l'objectif est clair, rassembler des acteurs du changement, créer du lien et montrer que des alternatives existent déjà, ici et maintenant.
Cette année, on a essayé de donner un peu une couleur un peu plus politique, on va dire, au festival, en organisation 4 parcours thématiques, un sur la lutte contre l'extrême droite, un sur les alternatives face au système, la politique locale, c'est fantastique, et l'interconnaissance associative. L'idée, c'est d'aborder un peu ces 4 thématiques au travers d'associations qu'on a spécifiquement invitées, et de tables rondes, d'animations, de conférences pendant les 2 jours.
Le village des possibles porte bien son nom, un lieu où les initiatives se rencontrent et où les idées prennent forme. Rendez-vous à la prochaine édition avec la même chaleur et la même ambiance.
Un reportage d'Ulrich Zinsou.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
0 heures.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Le tapis rouge de la solidarité est déroulé pour une 2e édition. L'initiative organisée par le département d'Ille-et-Vilaine met en avant des acteurs et actrices du territoire. 4 catégories représentent les différents types de solidarité entre citoyens et citoyennes. C'est vous qui allez voter, mais avant, Jean-Luc Chenu, président du conseil départemental, nous parle de cette initiative.
C'est l'aboutissement d'une réflexion que nous avions engagée, c'était en 2023, en se disant qu'il y avait beaucoup de prix, de trophées sur beaucoup de thématiques, mais que la question de la solidarité en tant que telle était très très rarement mise en valeur, en tout cas spécifiquement et avec un événement totalement dédié, alors que la question des solidarités, ça fait partie vraiment des missions essentielles d'un conseil départemental. La solidarité, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, n'est pas une valeur du passé, c'est vraiment une une valeur d'avenir et c'est même la condition pour un avenir et de la cohésion sociale dans les territoires. Alors l'idée a cheminé avec du coup un partenariat avec TVRN et puis Ouest France. On a quatre catégories. Alors il ou elle s'engage pour les autres, c'est un petit peu la notion de solidarité, de proximité, d'initiative, de convivialité. Il y a aussi souvent des actions qui présentent un caractère un petit peu vraiment d'innovation, soit sur la thématique retenue, soit sur leur mode d'organisation, les supports retenus. Donc on a une catégorie solidaire et innovant. Une catégorie avec une dimension environnementale forte, c'est solidaire pour la planète. Et puis également, nous tenions absolument à ce qu'il y ait une catégorie plus spécifiquement dédiée à des initiatives portées par des jeunes. Et puis, dans les semaines qui viennent, eh bien, il est engagé un vote. Tout le monde en Ille-et-Vilaine peut voter. C'est du 25 avril au 20 mai. Donc, il y a une plateforme sur westfrance.fr dédiée à l'événement. La dernière étape, ce sera le 28 mai avec une réception dans le parc du conseil départemental, un enregistrement par TVRN et toute une série de rediffusions à différents moments dans la semaine qui suit. Et puis une restitution par Ouest France, bien sûr.
Il est possible de voter jusqu'au 20 mai sur le site de Ouest France. À la clé pour les gagnants et gagnantes, un trophée œuvre d'art. Il sera en verre soufflé et produit par l'artisane Martine Durand-Gasselin.
6 heures avant minuit.
Un lieu où l'on circule, où l'on échange, où l'on imagine d'autres façons de faire société. C'est le village des possibles, organisé par Alternativa, entre stands associatifs, débats et initiatives citoyennes, le 25 et 26 avril au Mail François Mitterrand. Marilyn y a récolté quelques avis.
Dans les allées, ça circule doucement. On s'arrête, on discute, on écoute. Ici, pas de parcours imposé. Le village se découvre comme un marché, au fil des curiosités et des rencontres. Une déambulation intuitive, pensée pour attirer, interpeller et surtout sensibiliser.
Combien de gens on est à la déco ?
Combien de gens ?
Ok, bah du coup 4 personnes avec.
Nous sommes au village des possibles, organisé par l'association Alternativa, un espace où se croisent associations, collectifs et citoyens engagés, tous réunis autour d'un même objectif, apprendre, s'organiser et construire ensemble un monde plus juste. Premier arrêt, dans un tiers-lieu citoyen. Thierry Merle nous explique.
Un espace qui a été créé par Jean-Michel, là, qui a un tiers-lieu dans les Côtes-d'Armor et qui a une exposition itinérante qui est chargée plutôt de valoriser finalement ce qu'est toute la vie citoyenne et associative, la richesse de la vie associative. Tous ces gens-là finalement travaillent à œuvre un peu pour changer la société un peu dans la même direction. Ce qu'on essaye de faire, c'est un peu une logique un peu d'éducation populaire, c'est-à-dire on donne à voir pour simplement que les passants se disent oui, c'est vrai que tout ça, il y a ça qui est intéressant et ils font un petit peu leur course en matière de centre d'intérêt, sortir de ces juste des habitudes de pensée, quoi.
Le parcours continue et mène jusqu'à une librairie engagée.
Je m'appelle Virginie Messonnier, j'habite le quartier de Maurepas-les-Gailleuls. J'ai décidé de venir collaborer, on va dire, avec l'Astrolab, qui est une librairie indépendante installée tout près de chez moi, parce que je crois absolument que c'est un commerce de première nécessité.
Xavier, libraire à l'Astrolab, complète.
C'est un festival qui est raccord avec nos valeurs, hein, évidemment, et donc on ne pouvait pas ne pas être présent à un festival qui défend ces valeurs inclusives qui ont tendance à bien disparaître en ce moment. Donc toute action est évidemment importante et notre présence donc est ici importante.
Le village des possibles, c'est plus qu'un événement. C'est un espace au sens large, un lieu d'expérimentation, mais aussi un cri d'espoir, l'espoir de vivre dans un monde où solidarité et inclusion ne sont pas des slogans, mais des réalités vécues.
Merci Marilyn. Et à Rennes, cette énergie collective se prolonge avec le printemps citoyen jusqu'au 30 mai. Un temps pour échanger, s'impliquer et faire vivre concrètement les idées de solidarité et d'inclusion. Toutes les infos sont à retrouver en ligne et sur les réseaux des organisateurs.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Mardi dernier, le collectif Bouge ta Préf 35 a organisé une permanence d'entraide administrative avec les associations d'accès aux droits de l'agglomération rennaise. L'objectif est clair et affirmé, réaliser ensemble, place de la République, les démarches afin de rendre visible l'ensemble des problèmes qui peuvent rencontrer les personnes exilées. Marilyn y était.
Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ?
bénévole au sein de l'association Et si on s'alliait, qui vient aider les personnes étrangères, nous explique.
Aujourd'hui, nous sommes là spécialement pour ces papiers-là. Car lorsque les gens n'ont pas leur dossier et ils repartent à zéro, il faut tout recommencer. Et bien souvent, ils perdent leurs droits. Donc pas de documents, pas de travail. Et c'est compliqué. Nous sommes là parce que la préfecture n'a pas suffisamment de personnel, à mon avis, pour aider ces personnes qui sont éloignées de tout.
Allez, monsieur le préfet, faites un job.
Le manque de moyens humains et la dématérialisation à outrance des démarches éloignent les usagers de leur accès aux droits.
Nous recevons jusqu'à 35-40 personnes, quelquefois 45, par demi-journée de permanence. Donc c'est vraiment colossal et c'est bien là où on se rend compte que la préfecture est défaillante.
Au milieu des soutiens aux personnes exilées, une habitante est venue dire son indignation face à l'inaction de la préfecture. Pour elle, l'urgence est de remettre l'humain dans la gestion administrative.
Bonjour tout le monde, je suis venue pour soutenir les personnes qui n'ont pas de papiers. Moi j'ai la nationalité française, heureusement, parce que maintenant j'ai plus de contact avec la préfecture, mais je viens soutenir les personnes qui galère pour avoir les papiers et j'ai envie d'envoyer un message à la préfecture qu'on arrête, on arrête. Depuis le Covid, on a l'excuse télétravail, mais c'est bon. Les gens, ils ont besoin d'un contact physique, ils ont besoin de trouver des solutions rapides. Il y a des personnes qui ont vécu en France 20 ans et aujourd'hui se trouvent sans papiers parce qu'il faut attendre, il faut attendre.
Anaïk termine.
Alors espérons que nous soyons entendus par monsieur le préfet et toutes les organisations et que ces situations puissent quand même s'améliorer et même on ne devrait plus exister, c'est un peu comme les Restos du Cœur, ça ne devrait plus exister aujourd'hui.
À Rennes, les exilés restent en attente et les soutiens espèrent désormais une réponse concrète des autorités. Ils ont d'ailleurs besoin de votre aide, n'hésitez pas à leur prêter main forte.
6 heures avant minuit.
Et une année de licence à 2895 euros contre 178 aujourd'hui. Et pour le master, 3941 euros par an au lieu de 254. Le mois dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a annoncé de nouveaux droits d'inscription majorés pour les étudiants et étudiantes étrangers extracommunautaires, c'est-à-dire ceux venant de l'extérieur de l'Union européenne. Des frais différenciés inacceptables pour la Fédération syndicale étudiante. Elle a appelé au rassemblement le 30 avril dernier, place Hoche à Rennes. Daniel s'y était rendu et a parlé à un membre du syndicat UN.
Bonjour, quel est le but de cette manifestation ?
Aujourd'hui, il y a un rassemblement pour protester contre la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers. C'est une hausse qui est raciste. Elle est mise en place par Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour protester contre, pour se mobiliser contre, parce que ça précarise d'autant plus les étudiants, et surtout les étudiants étrangers qui, on le sait, sont la première branche des étrangers qui sont exposés à la précarité. Voilà.
Crois-tu que c'est une décision économique pour sauver les universités ou une décision politique pour contre la migration dissimulée?
C'est complètement. Ça n'a rien d'économique, ça n'a rien de. C'est forcément politique parce que justement, on le sait, l'État investit énormément dans l'armée pour justement préparer une future guerre mondiale de pays impérialistes. Et donc, il y a l'argent, on l'a. L'argent, il est débloquable. Je crois que c'est 2,4 milliards. Je ne suis pas sûr sur le chiffre, mais qui ont été mis dans l'armée. Et du coup, c'est quelque chose qui est complètement raciste et qui précarise, du coup, comme je l'ai dit, encore plus les étudiants. L'État veut moins d'immigration en France, puisque du coup l'accès aux études se fait d'autant plus difficile et que ça va surtout être une élite occidentale qui va avoir accès aux études, parce que du coup c'est ceux qui ont le plus, c'est la bourgeoisie qui a le plus d'argent, la bourgeoisie par exemple anglaise, américaine, etc.
Il n'y a pas beaucoup de monde maintenant ici. Crois-tu que c'est le résultat de l'examen ou parce que les étudiants ne sont pas intéressés de cette manifestation?
C'est vrai qu'il y a un problème aussi dans le mouvement étudiant. C'est-à-dire que le mouvement étudiant s'essouffle, mais justement on est là pour essayer de le remonter, pour essayer de massifier, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de gens possible qui viennent à nos manifestations, à nos revendications, à nos rassemblements. Et donc forcément le fait qu'il y ait moins de monde, c'est un peu pénalisant, mais c'est pas pour autant que la cause est perdue et on a de l'espoir pour justement changer les choses.
Bon, merci. Et la dernière, crois-tu que le gouvernement va changer l'avis sur cette décision?
En vrai, rien n'est perdu, rien n'est totalement clair. Peut-être que le gouvernement va changer d'avis. On n'est pas sûr, on espère et on va se mobiliser pour les faire changer d'avis. Et voilà.
Bon, merci.
Et la semaine dernière, le ministère a légèrement revu sa copie. Chaque université devra pouvoir exonérer de droits d'inscription 20% de ses étudiants et étudiantes. Dans la première version du décret, il s'agissait de 10% des élèves.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
C'est la fin des zones à faible émission. Leur suppression adoptée le 14 avril dernier fait partie du projet de loi de simplification de la vie économique porté par le gouvernement. Depuis 2018, les ZFE avaient comme objectif d'améliorer la qualité de l'air en régulant la présence de véhicules polluants dans les centres-villes. Léonore s'est penchée sur les conséquences de cette décision.
Au quartier du Landry, à Rennes, le vrombissement des voitures berce le voisinage. Devant la pompe à essence, quelques automobilistes font le plein. Parmi elles et eux, une question divise. Dans la métropole de plus de 15 000 habitants et habitantes, les vieux véhicules ne seront maintenant plus restreints par une ZFE. Tous et toutes ne voient pas d'un même œil la situation.
Bien souvent, le Sénat est à contre-courant et je pense qu'il aurait fallu les maintenir. Puis si un jour on y reviendra et ce sera beaucoup plus compliqué qu'on fera revenir dans 5 ou 6 ans, puis on n'aura pas le choix.
Les zones à faible émission, elles sont intéressantes pour limiter la pollution. Mais de l'autre, c'est vrai que je suis pas sûr qu'il y avait des aides mises en place pour les personnes pour changer ou rénover leur véhicule.
Pour moi, l'écologie, ça doit être quelque chose d'équitable et pas forcément taxé sur des voitures polluantes. On sait très bien que les voitures polluantes, c'est des voitures d'occasion qui vont être achetées par des gens à faible revenu.
Dans la capitale de la Bretagne, la zone à faible émission était en place depuis le 1er janvier 2025. Elle interdisait aux véhicules essence et diesel immatriculés avant le 31 décembre 1996 de circuler en ville. Avec ces mesures, les pouvoirs publics espéraient réduire la pollution liée aux déplacements humains. Bénédicte Jacquemin, directrice de recherche à l'INSERM, précise les effets néfastes de cette pollution sur la santé.
Ces gaz et ces particules, ils ont des effets sur la santé au niveau des poumons, parce qu'ils vont aller dans les poumons et là, ils vont causer des réactions d'inflammation et de stress oxydant qui vont sortir des poumons et qui vont pouvoir avoir des effets sur la santé au-delà des poumons. Mais en plus, les particules ultra fines, par exemple, elles peuvent traverser la barrière hémato-pulmonaire, donc aller dans la circulation sanguine et de là aller dans n'importe quel autre organe ou système et causer aussi directement de l'inflammation et du stress oxydant dans ces autres organes.
Les conséquences de la disparition de la ZFE rennaise sont compliquées à mesurer. Le plan de la métropole devait s'échelonner jusqu'en 2030. Il est donc difficile d'établir des comparaisons fiables après seulement un an d'expérimentation. Airbraze, l'association bretonne qui contrôle la qualité de l'air, n'a pas souhaité nous répondre, jugeant la situation trop sensible. De son côté, la ville de Rennes dit attendre la publication d'un communiqué de presse pour s'exprimer.
Pour comparaison, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, la suppression de la ZFE devrait entraîner la surexposition de 40 000 Français et Françaises supplémentaires à la pollution de l'air, selon l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Air Paris. D'un point de vue juridique, la France est contrainte de lutter contre la pollution de l'air par une directive européenne adoptée en 2008. Pour respecter cette réglementation, le pays devra donc mettre en place d'autres solutions destinées à réduire la pollution atmosphérique.
6 heures avant minuit.
Rosas, danse. Rosas, c'est une œuvre majeure de la danse contemporaine. Elle a été créée en 1983 par la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmaeker. Elle est présentée au Triangle du 19 au 21 mai à 20h en collaboration avec l'Opéra de Rennes. C'est une pièce réalisée pour 4 interprètes féminines sur une musique de Thierry Demey et Peter Vermersch. Les danseuses y effectuent 4 mouvements représentant une journée où se mélangent précision et répétition. Depuis sa création, c'est la 5e génération de danseuses qui interprètent la pièce. Leurs noms, Jasmine Ashtari, Eva Galmel, Nina Goderis, Momiji Kumaru. Nous avons pu rencontrer deux d'entre elles, Nina Goderis et Eva Galmel, mais aussi Odile Baudou, secrétaire générale et coprogrammatrice du Triangle, cité de la danse rennaise.
Pour moi, c'est vraiment une pièce collective. C'est pas une sans les autres, c'est soit toutes ensemble, soit personne. Donc ça, pour moi, c'est très important, et encore plus dans le contexte actuel, de faire les choses ensemble.
Ouais, j'avais juste envie de rentrer dans ce corps-là, dans ces gestes-là. Et en la faisant maintenant, c'est à peu près les mêmes choses qui me plaisent, mais c'est surtout, je pense, à la fois la répétition, l'extrême fatigue dans laquelle je me trouve à la fin du spectacle. Et il n'y a que cette fatigue-là qui me permet d'accéder à un état qui me plaît. Et puis je crois aussi la connexion avec les trois autres interprètes au plateau.
C'est une pièce qui s'actualise, qui reste d'actualité et qui même change d'actualité. Enfin, je trouve qu'elle a une dimension féministe qu'elle n'avait peut-être pas à l'origine. En tout cas, je n'ai pas entendu de propos ou lu de propos d'Anne-Thérèse de Kersmaker avec cet angle de vue. Et moi, en tout cas, je la lis comme ça aujourd'hui.
Ça, et puis cathartique, parce qu'à la fois, on est ensemble et puis tu peux aussi mettre tout ce que tu as en toi, tes émotions, etc. Et donc, pour moi, ouais, c'est un beau purgatoire collectif.
C'est surtout que dans ce quatrième mouvement, on a enfin, par nos trajectoires sur le plateau, la possibilité de se regarder dans les yeux, de se regarder vraiment et de se soutenir parce que la fatigue s'accumule. Et ce lien entre nous qui est indélébile. Enfin, il y a quand même une nécessité de s'accrocher aux unes aux autres. C'est pas surfait. Enfin, c'est en ça que je prends du plaisir, moi. C'est que tous les soirs, j'ai pas besoin de créer ou de faire un faux semblant de connexion, c'est nécessaire pour traverser la pièce.
C'est une pièce que j'ai découverte en vidéo en histoire de la danse, et c'est assez fou de se dire, ok, on l'étudie comme histoire de la danse, mais elle est toujours vivante aujourd'hui, et on peut, nous, avec nos corps d'aujourd'hui, notre histoire, rentrer dans cette pièce aussi. Et donc ça, c'est un grand honneur, et j'ai l'impression tous les soirs de danser avec toutes les femmes qui l'ont dansée, parce qu'évidemment pour la reprendre, on a regardé des vidéos, on s'est inspiré de leur personnalité, parce que c'est vraiment aussi un endroit où il y a un cadre, mais où tu peux vraiment être toi-même. Et Anne-Thérèse de Kersmaker est très forte à voir, en tant qu'individu dansant, qu'est-ce qui te porte au plateau, et à t'aider à vraiment faire éclore ça. Et c'est magnifique à faire, ouais.
Malheureusement, les places sont presque toutes écoulées, mais si ce reportage vous a motivé, vous pouvez vous présenter le soir même avant le concert et tenter votre chance pour obtenir une place. Et en préambule du spectacle de demain, une centaine d'amateurs et amatrices réaliseront le deuxième mouvement de Rosas, Danse Rosas, guidé par la chorégraphe Nathalie Salmon. Ça se passe demain à 19h au Triangle, ne manquez pas ça.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit. 01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On va se diriger vers le Café Fleuriste qui va bientôt ouvrir en ville. Son nom, le Café Lupin. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est que le Lupin.
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 Non, explique-nous tout.
Alors, c'est une plante qui sert d'alternative au café. Armée d'un micro et de sa curiosité, Cess est allée se renseigner auprès d'Enora, la barista, et Marie, la fleuriste. Les deux sœurs sont à l'origine du projet.
Alors moi, du coup, c'est Enora. Et moi, c'est Marie. On va unir nos forces et nos passions respectives pour ouvrir une boutique à Rennes. Ça se fait beaucoup en ce moment, le côté café plus autre chose. Et café fleur, on s'est dit, ça va faire des miracles.
Votre boutique va s'appeler le Café Lupin. Pourquoi ce nom ?
Le lupin, du coup, de base, c'est une fleur. Les graines de cette fleur peuvent être torréfiées pour en faire du café qui est du coup décaféiné. Ça regroupe nos deux passions. Donc on s'est dit que c'était un bon nom à choisir. C'était le nom parfait pour l'enseigne et qui nous représentait bien toutes les deux.
Est-ce qu'il y a des enjeux à utiliser des alternatives au café comme le lupin ?
Le café, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très écologique. Ça vient de super loin et puis avec les raisons climatiques, ça peut être quelque chose qui peut être amené à être rare. Le lupin peut être d'origine française ou allemande. On peut avoir des fournisseurs locaux. Et le lupin a un goût qu'on a aussi beaucoup apprécié. Il a un goût beaucoup plus gourmand en bouche, moins amer que peut avoir le café.
Le lupin sera servi en café, mais sera-t-il aussi présent en bouquet ?
C'est pas la fleur qu'on retrouve le plus chez les fleuristes. On essaiera, lorsque c'est la saison, d'en proposer. On essaiera d'avoir une démarche au moins pour un tiers ou la moitié des fleurs, d'avoir une démarche aussi locale. Parce que comme le café, les fleurs, parfois, ça peut venir de très loin, notamment les roses d'Équateur et autres, donc on va aussi essayer de pousser une démarche un peu locale de ce côté-là.
Vous avez ouvert une cagnotte sur Ulule.
Alors, en lisant la description, on lit que cela vous permettrait de choisir vos propres fournisseurs de café et de torréfacteurs. C'est quelque chose que je ne savais pas avant de préparer cet entretien-là. Vous êtes dépendant des torréfacteurs et des fournisseurs de café vis-à-vis des machines?
On peut avoir la possibilité de soit louer la machine à café, soit l'acheter. Mais en la louant, on peut être dépendant du café que eux, ils veulent absolument proposer. Nous, on voulait pas être dépendant de ça. On voulait choisir notre propre café. Pourquoi pas changer de torréfacteur de temps en temps, changer de marque de café, etc.
Si vous êtes sensible à la démarche d'Enora et Marie pour proposer un lieu mêlant le parfum du café et celui des fleurs et qui se source auprès de fournisseurs locaux, vous pouvez soutenir leur rêve d'indépendance caféinée. Leur cagnotte Ulule pour les aider à acheter leur machine à café se clôture le 1er juin. Et si vous voulez les saluer et les encourager pendant leurs travaux, vous pouvez passer les voir au 46 bis, Maille du Mitterrand. Pour savourer une tasse de Lupin ou s'offrir un bouquet, il faudra attendre l'ouverture à la boutique de la boutique en septembre, pardon.
6 heures avant minuit.
Et c'est au tour des jeunes de se tenir dans l'hémicycle. Vendredi 22 mai se tenait le Conseil Régional des Jeunes. Face au président de la région Bretagne, il et elle étaient 84. L'objectif, présenter leurs projets autour de la culture bretonne, de la santé mentale, l'accès aux droits et au sport. Avec Léonore, on est allé à la rencontre d'Erwan Kerner en première du lycée Beaumont à Redon.
Bah, j'ai rejoint le Conseil Régional des Jeunes un peu par hasard, c'est ma CPE qui me l'avait proposé de le rejoindre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour m'engager, parce que je suis déjà engagé au CVL de mon lycée et dans le conseil d'administration. On avait des commissions de proposer, mais on pouvait aussi proposer des commissions. Et donc avec certains amis, on avait eu l'idée de faire une commission identité et surtout culture régionale. Et donc j'ai voulu la rejoindre. Mon grand-père, il parlait le breton et malheureusement, il n'a pas pu le transmettre à mon père et donc à moi-même non plus. Et je trouvais ça très injuste qu'on n'ait pas pu l'apprendre, qu'on n'ait pas pu avoir cet héritage-là. Parce qu'une langue, c'est quand même ce qui forge une identité. Alors évidemment, il faut parler le français, il faut parler les autres langues, mais il faut aussi surtout parler le breton pour ne pas oublier d'où on vient. Au-delà de la langue, il y a toute une culture, des villes, des chants, des danses, des vêtements qui, heureusement, sont papetés par certaines associations. Il faut mettre en évidence ces associations. Et donc plus tard, oui, je veux devenir prof d'histoire géo et j'aimerais bien, parce que je ne sais pas parler le breton, mais l'apprendre et peut-être enseigner l'histoire géo en breton, parce que je pense que l'histoire, ce qui est dommage avec les programmes scolaires actuels, c'est que c'est surtout axé sur l'histoire nationale et peu sur l'histoire locale, alors que bah, on la vit, on a plein de gens qui pourraient la raconter, nos aînés, et ce serait super intéressant et je pense que beaucoup de gens seraient encore plus intéressés par l'histoire.
Leur projet à destination des écoles portait sur des affiches mettant en avant les artistes bretons et un jeu de loup-garou traduit en breton.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Anna était vendredi dernier à la salle de la Cité à Rennes. La canicule était là, mais les bénévoles de la salle de la Cité aussi. Un accueil à la hauteur des 86 degrés Fahrenheit, comme le groupe qu'elle a eu la chance de rencontrer dans les loges.
Genovefa est membre de l'association depuis plusieurs années. Elle s'occupe de la communication et de la programmation.
On essaye vraiment de faire venir un public qui n'a pas l'habitude ou souvent qui n'ose pas passer la porte parce qu'on se dit que c'est un milieu un peu fermé où les gens savent tous danser alors qu'on a tous commencé à un moment. Donc il faut juste réussir à rentrer dans la ronde et c'est le but là ce soir que chacun et chacune arrive à y aller.
Je suis Ryan, je fais partie de Bisbian, qui est l'association qui fait toutes les initiations avec Fest & Braise et dans d'autres Fest Noz aussi. Tout le monde peut venir pour faire une initiation, il y a zéro prérequis et on vous apprend les danses de A à Z dès le départ avec un accompagnement musical soit aux enceintes soit aux instruments directement comme on a là à Fest & Braise.
Quelle est la danse la plus simple pour commencer ?
La plus simple, ce serait un rond de Saint-Vincent.
Donc on va commencer en se donnant la main et on va faire 4 pas en avant et 1, 2, 3, 4, 4 pas en arrière.
L'initiation c'était super parce que moi c'est la première fois que je viens à Fest Noz à Rennes et c'était très agréable. On a été très bien guidés, il fait un peu chaud, mais sinon c'était bien.
Moi j'ai fait quelques fest-noz, mais c'est chouette de revoir les bases et c'est un peu moins
Il y a un peu moins de pression que quand on danse avec plein de gens qui s'y connaissent déjà beaucoup. Là, c'est chouette, on n'a pas peur de se marcher un peu sur les pieds.
Dans les loges, je retrouve Alex, Rémi, Antoine et Alice, quatre membres du groupe Rennes Fahrenheit et tête d'affiche de la soirée. Qui vient vous voir et quel type de musique faites-vous ?
Ce qui est bien, c'est que surtout, on attire un public qui est transgénérationnel. On a plein de gens complètement différents, de tout horizon, qui viennent de toutes parts, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des retraités, des tout ce qui est entre les deux, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment beau à voir parce que tout le monde danse ensemble. On hérite, oui, c'est ça, on hérite de pratiques qui étaient déjà là avant nous et avec lesquelles on a beaucoup appris et avec lesquelles on a grandi. Donc, finalement, c'est un passage de témoin, je pense, plus qu'autre chose.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ?
Continuer à faire vivre des cultures pas du tout, stéréotypées. Bon, comme la culture bretonne qui n'est pas un stéréotype, par exemple. Voilà. Ou imaginaire, comme on peut le voir dans certaines... parce qu'on parle de militantisme, dans certaines pseudo-cultures françaises au sens large, alors qu'il y a les cultures françaises et pas la culture française. Voilà.
La 26e édition s'est achevée parmi les manèges ce dimanche au Grand 8.
6 heures. Avant minuit.
Ce sont des lieux essentiels pour la vie sociale des quartiers et villages. Pourtant, les commerces de proximité traversent de nombreuses difficultés. Inflation, habitudes de consommation changeantes, pouvoir d'achat en baisse. La crise économique actuelle est une épreuve, notamment pour les petits bars associatifs. À l'occasion des 10 ans du Guy Bras, le bar épicerie de Saint-Sulpice-la-Forêt, eh bien, Louise Picard y est allée pour voir comment se porte le lieu.
Nous sommes en 2026 après Jésus-Christ, dans un petit village d'irréductibles gaulois à Saint-Sulpice-la-Forêt. On retrouve une ancienne bâtisse à la porte bleue et à l'enseigne en fer forgé noir, rue de la Grange, le Guy Bras. C'est l'unique épicerie de Saint-Sulpice-la-Forêt, petite commune de Rennes Métropole. À l'intérieur, un bar avec des tables, des chaises et une cheminée. Un coin jeu pour les enfants. Au mur, des œuvres exposées et au fond, en montant trois marches, une petite épicerie. On y retrouve un habitué venu prendre un café.
Là, c'est un peu notre point de ralliement, prendre un café, faire des courses, venir voir un concert ou de la musique. Enfin, il y a plein de choses qui se passent ici.
Depuis 2019, le Guy Bras fonctionne grâce à une collégiale. Bertrand, Gwen et Anathaël sont membres et bénévoles du Guy Bras. C'est grâce à eux que ce lieu fonctionne. Ils nous en parlent.
C'est toujours les citoyens, les villageois qui font vivre ce lieu, les bénévoles. Les salariés sont très impliqués aussi. Elles apportent énormément à la structure. On sent que les villageois ne veulent pas le perdre. Et du coup, il y a encore un autre truc qui arrive là, qui est vraiment très chouette.
La situation actuelle du Guy Bras, économiquement, elle est tendue. On est confronté à tout un tas de difficultés. Alors, certaines sont inhérentes à la situation économique, côté inflation. Puis l'évolution aussi des habitudes de consommation font que les gens regardent sérieusement au prix et vont plutôt privilégier d'autres sources d'approvisionnement pour leur nourriture. Il y a des effets aussi liés à la situation des petits commerces où en fait pour accéder aux produits que l'on vend, on est obligé de passer par des plateformes avec lesquelles on n'a pas de moyens de négociation sur les prix. Donc on est obligé de vendre nos produits à prix fort en quelque sorte. En tout cas, les membres de l'association qui sont présents aujourd'hui ont vraiment pris conscience que le socle, c'est le commerce et notamment notre épicerie. Et qu'il faut qu'on ait des clients pour que ça tourne. Comme on est une association, on a toujours besoin de bénévoles pour nous donner un coup de main, pour nous aider. Et puis, on n'a pas encore un modèle économique complètement viable, donc on a aussi besoin de soutien financier. C'est au travers des soutiens publics, des subventions qu'on peut aller chercher, et puis aussi au travers d'appels aux dons que l'on peut faire de temps en temps pour faire en sorte que notre projet réunisse le plus grand nombre et ait des soutiens directs dans la mesure du possible de chacun.
Le Guy Bras fête ses 10 ans, alors si vous voulez soutenir ce lieu, n'hésitez pas à venir le découvrir le week-end du 29 mai. Café, tricot, spectacle burlesque, concert, il y aura forcément quelque chose pour vous plaire. Retrouvez toute la programmation sur leguybras.fr ou sur leurs réseaux sociaux Instagram, Facebook.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Et maintenant, direction le garage dans le quartier de Villejean pour la 6e édition du festival Nomadance. L'événement est organisé par l'association Danse à tous les étages, dont Natacha Lefrène et la directrice.
Nomadance, c'est un festival qui a été créé en 2021, donc on en est à la 6e édition, qui est un festival itinérant porté par notre association Danse à tous les étages, qui est un centre de développement chorégraphique national itinérant en Bretagne. Et Nomadance, c'est vraiment un festival qui nous fait voyager, puisque c'est un festival itinérant qui nous amène de Rennes à Brest, en passant par le canal de Nantes à Brest et le centre Bretagne, avec l'enjeu vraiment présent dans le festival de faire dialoguer des projets artistiques avec des paysages, de faire, je dirais, surgir la danse dans des endroits inattendus et de mettre aussi des corps en mouvement qui ne sont pas forcément des corps de danseurs habituels. Donc des propositions aussi tout à fait participatives. Nomadance, c'est un festival qui se déroule du 27 mai au 7 juin, donc dans 12 jours, 8 villes avec une trentaine de partenaires. Il y aura en tout 24 rendez-vous artistiques, dont 15 représentations, mais aussi des projections, des ateliers, des workshops, des rencontres professionnelles. Et donc pour la partie rennaise, puisque c'est un festival régional, ça se déroule à partir de ce soir, mercredi 27 mai, et jusqu'à vendredi 29 mai, avec différentes propositions qui se dérouleront notamment au garage.
Des propos recueillis par Solène Canquet.
6 heures avant minuit.
Les vagues de chaleur liées au réchauffement climatique impactent fortement l'accès à l'eau bretonne. Pour mieux comprendre la situation démographique, nous nous sommes adressés à l'OEB, l'Observatoire de l'environnement de Bretagne. Pierre Darentière, chef de projet Adaptation Climat, et Timothée Besse, chef de projet sur la thématique de l'eau, nous ont expliqué tout ça.
L'idée, c'est de voir comment le cycle de l'eau va être modifié en Bretagne avec le changement climatique. Et donc là, on voit qu'il y a une grande, forte baisse de la ressource, notamment en été. Mais il faut savoir qu'en Bretagne, on avait la chance historiquement d'avoir une pluviométrie particulièrement importante comparée à d'autres régions, mais que la Bretagne est très hétérogène et le sud de la région fait beaucoup plus face à des sécheresses des sols régulièrement que la partie justement des monts d'Arrée qui est beaucoup plus arrosée. Par rapport à d'autres régions, en France, on a une vulnérabilité vraiment intrinsèque liée au fait qu'on a une géologie qui fait qu'on a des sous-sols qui stockent peu l'eau. En Bretagne, une nappe se vide assez rapidement, en quelques semaines ou à quelques mois, mais rarement plus. Ce qui fait que c'est pas parce qu'on va avoir un hiver très pluvieux qu'en été, on aura forcément une ressource disponible dans les sous-sols pour alimenter notamment, par exemple, en eau potable. Et donc 75% des réserves d'eau potable et sont des réserves de surface, donc dans des barrages. Ça, c'est vraiment assez propre à la région.
Il faut savoir aussi que comme la Bretagne, effectivement, a assez peu de ressources souterraines, elle est organisée déjà depuis longtemps pour partager l'eau à l'échelle régionale. Il y a beaucoup de réseaux d'eau potable qui permettent de se raccorder d'un territoire à l'autre, même d'un département à l'autre. Et c'est ce qui a permis en 2022 de maintenir un approvisionnement en eau potable partout sur la région. Mais on a bien vu qu'à ce moment-là, on a atteint aussi les limites de ce système de repartage de l'eau. Le fait que les débits baissent dans les rivières, par exemple, ça peut amener à des cours d'eau qui s'assèchent. Et donc les espèces qui y vivent se retrouvent en survie. Il y a des espèces de poissons qui migrent de l'aval de l'estuaire jusqu'à l'amont de la rivière, et qui peuvent se retrouver beaucoup plus bloqués par les multiples obstacles, les barrages et les petites chaussées de moulins qui du coup sont infranchissables lorsque les débits sont trop faibles. Donc ça impacte les cycles de vie des espèces de manière large. Ça peut aussi favoriser l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui se retrouvent bien plus adaptées à ces milieux sous stress.
Si le sujet vous intéresse, le Memento, la ressource en eau en Bretagne face au changement climatique, est disponible sur le site de l'OEB.
Si, la radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.